Voilà. Donc il dit l'action primaire consiste en ce que l'homme est simplement le produit de mutations aléatoires, plus donc au hasard, plus la sélection naturelle. Dans les institutions éducatives de notre société, l'action primaire est enseignée partout et presque partout acceptée. C'est le mantra constamment articulé dans tous les campus universitaires. Oui. Il n'hésite pas, c'est comme un mantra bouddhique. Au fond, on répète ça depuis la tendre enfance, les dinosaures éteints depuis 60 millions d'années, la théorie darwinienne, etc. Et ça formate nos disques durs, parfois jusque dans le monde évangélique. L'action primaire tient par une foi presque mystique que ces vrais croyants ont dans l'omnipotence de la sélection naturelle. Je commençais à comprendre de nouveau avec crainte que je pourrais offenser la religion de beaucoup de gens. Évidemment, quand on écrit ça, on ne se fait pas que des amis. Hein. Ça, c'est sûr, surtout dans le monde académique. Tard dans ma carrière, j'ai fait ce qui est impensable pour un professeur de l'université Cornell. J'ai commencé à mettre en question l'action primaire. Je l'ai fait avec une grande crainte, une grande tension. En le faisant, là il y a des erreurs, il faut que je corrige. En le faisant, je savais que je serais en désaccord avec les plus sacrés des vaches sacrées de l'univers moderne. Cela pouvait même entraîner, entre autres, mon expulsion du monde académique. Bien que j'aie atteint un succès, une notoriété considérable dans ma spécialité, la génétique appliquée, voyez, et il a été effectivement chassé de l'université. Il semblerait que maintenant, ils sont en train de le réintégrer, comme mon cher ami, un cher ami biologiste mondialement connu. Je ne peux pas en dire plus parce qu'il est en train d'être réintégré à l'INRA, qui est la grande université française au niveau des animaux. C'est l'équivalent du CNRS pour la recherche scientifique. Il a été chassé parce qu'il était créationniste, mais il a une telle notoriété mondiale qu'ils sont en train de le réintégrer, lui qui publiait dans Nature. Donc voilà, on a déjà parlé de ce livre. Voyez maintenant, aux États-Unis, il existe des dizaines de vidéos, de films extrêmement bien faits, de scientifiques qui, un peu comme Guy Leduc, mais dans toutes sortes d'autres domaines, explique avec des vidéos remarquables, malheureusement en anglais bien sûr, pourquoi eux croient au récit de la parole de Dieu. Donc c'est des matériaux, je vous dis, c'est des dizaines qui sont là. Alors l'évangile de Jean, ben, vous connaissez bien, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Je vous dis quelques mots de l'ADN. Ça veut dire que ce texte qui est inscrit dans chacune de nos cellules et qui fait que nous sommes nous et pas quelqu'un d'autre, eh bien c'est un texte, ça veut dire que tout ce qui est vivant, plantes, animaux et êtres humains, provient d'une information. Cette information, c'est un texte unique composé de milliards de lettres. On dit que c'est l'équivalent de 20 volumes, de 20 encyclopédies Britannicus ou encyclopédies, voilà, qui ont 20 volumes, de 1000 pages chaque volume à 4. Vous multipliez par 20 et le nombre de lettres de 20 encyclopédies, c'est votre ADN qui se trouve dans chacune de vos cellules. Donc c'est gigantesque. Or, c'est une information. Or, des scientifiques disent, mais une information, qui donne l'information? Qui a donné l'information? Rémi Chauvin, dont je vous ai parlé, dit, qui a écrit le texte de l'ADN? Serait-ce un Dieu? Mais pas celui de l'Ancien Testament. Et là, on comprend les choses, vous voyez? Comme pour dire, on veut bien un Dieu, mais quand même pas celui de la Bible. Or, l'Évangile nous dit avec simplicité, au commencement était le texte, au commencement était la parole. Donc, les scientifiques nous disent ce que l'Évangile de Jean nous dit depuis 2000 ans. Au commencement était le Verbe. Au commencement, donc Dieu a donné une instruction, en fait, pour que les atomes se mettent ensemble selon une parole créatrice selon l'ADN des plantes, des animaux et des humains. Maintenant, voyez, quand on parle, même des chrétiens me disent, oui, mais tout le monde est d'accord qu'il y a eu des millions et des milliards d'années pour créer, on en a la preuve. Oui, mais alors attendez, la multiplication des pains et des poissons. Voyez, dans les quatre évangiles, il y a deux multiplications, vous savez, et il y a une exactitude sans broncher sur le nombre de paniers qui restaient, le nombre de poissons qui avaient au départ, de pain et tout, c'est vraiment très clair. Or, on touche là une notion importante quand on parle de la création, ça veut dire l'apparence d'âge. Parce que certains disent, oui, mais il a fallu des milliards d'années pour notre monde aujourd'hui. On vient de le voir, le déluge a déjà tout bouleversé. On n'a déjà plus l'ancien monde. Mais Dieu est capable de créer en apparence d'âge. Quel âge avait Adam et Ève quand ils ont été créés? Oui, ils avaient quel âge? Ce n'est pas des petits bébés. Et quand le Seigneur multiplie les pains et les poissons, ils ont quel âge les poissons? Oui, si on les amenait dans un laboratoire de biologie, on dirait, ben, ce poisson, il a peut-être, je sais pas, 5 ans, 6 ans, j'en sais rien. Vous voyez combien de temps vivent les poissons. Mais c'était des poissons adultes. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'apparence d'âge. C'est-à-dire quand Dieu crée, après, on peut dire, oui, mais la matière, elle est peut-être très vieille. Ben, pourquoi pas la matière, mais c'est l'apparence d'âge. Maintenant, voilà la croix. Vous voyez, quand on parle de la résurrection, c'est pour ça que les évolutionnistes ne peuvent plus être croyants. Parce que, un, c'est pas possible que tout recommence au déluge. Pour eux, c'est impossible. Il a fallu des milliards d'années pour en arriver là. Donc, c'est impossible qu'il y a quelques milliers d'années en arrière, avec la dernière glaciation reconnue, mais dont les causes pour eux, c'est une glaciation parmi beaucoup de glaciations dans l'histoire du monde. Mais ça veut dire que c'est insupportable, l'idée que tout recommence avec 8 personnes. C'est pas possible. Et puis des paires d'animaux, vous voyez. Donc, on se rend compte que ceux qui entrent dans la logique de l'évolution, ils ne peuvent plus en sortir. Et ça veut dire que la résurrection, après 3 jours et 3 nuits, même si on enlève quelques heures, selon certains exégètes, mais tout est détruit. Tout est détruit dans le corps humain. Tout, Lazare aussi, qui était déjà en décomposition. Mais vous imaginez un instant une résurrection? Il faut tout refaire. Mais qui refait tout? Qui a la puissance de refaire les choses? Il n'y a que Dieu, le Créateur, qui peut faire des choses comme ça et qui va nous ressusciter avec un corps de résurrection, comme Jésus a un corps aujourd'hui de résurrection, qui peut traverser les murs, qui peut aller au ciel. Et bien, ça sera notre cas quand on sera ressuscité. Le tombeau est vide. Et voyez aussi, quand les évolutionnistes, même croyants, disent, mais quand Dieu dit tout était très bon, s'il y a eu des millions d'années, ça veut dire que Adam et Ève, on ne peut pas les faire reculer à des millions d'années, ce n'est pas possible. Parce que vous voyez, le biotope de la Genèse, c'est un biotope de quelques milliers d'années avant Jésus. C'est ce qu'on appelle l'agropastoral de Pierre Chaulieu, par exemple. Ça veut dire que vous prenez une encyclopédie, vous allez, ou des grands dictionnaires sur l'histoire du monde, vous allez voir d'abord les bactéries et puis surtout les dinosaures. Après, vous allez voir l'extinction des dinosaures, vous allez voir, puis après, vous allez voir les hominidés. Qu'on place à des millions d'années, mais ça ne tient pas la route. Mais ça va être une nouvelle conférence pour démontrer cela. Et tout d'un coup, l'humanité moderne. Et puis là, on est au Moyen-Orient, maximum 6, 7, 8 000 ans avant Jésus, maximum. Parce que c'est là que tout de suite, on cultive, on élève des troupeaux, on construit des maisons, on construit des instruments de musique. Lisez la Genèse, elle nous dit ça. Elle nous dit exactement ce qu'on appelle l'agropastoral dans l'histoire de l'humanité. Or, quand Dieu dit voici tout était très bon, ça veut dire déjà là c'est un mensonge. S'il y avait déjà les animaux qui se mangeaient entre eux, si les hommes mouraient, se battaient entre eux, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc on ne peut pas reculer Adam et Ève si loin, ce n'est pas possible. Et puis, un nouveau ciel, une nouvelle terre. La nouvelle Jérusalem, elle descend d'en haut. Et moi, je me dis, Dieu a fait descendre la terre telle qu'on la connaît, enfin, telle qu'on la connaît, la première création, il l'a fait descendre d'en haut. Moi, je crois que Dieu a conçu L'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, nous le dit, que Dieu, avant de créer, a vu et a su qu'il y aurait la chute. Il a quand même créé, mais il a déjà conçu dans son cœur d'envoyer son Fils. C'est extraordinaire, puisqu'il est dit dans l'Épître aux Éphésiens, avant la création du monde, vous pouvez revoir cela dans le premier chapitre, nous sommes élus en Christ. En Christ, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que Dieu est Dieu. Vous savez, on a rapetissé Dieu à notre mesure, même notre mesure de chrétien. Ça veut dire que Dieu est Dieu. Il dit la chose arrive, il ordonne, elle existe. Et vous imaginez là? Non, on ne peut pas imaginer qui est Dieu, on ne peut pas. On ne peut pas. Il est Dieu, voilà. Il est lumière, il est amour. Mais ça veut dire qu'il a conçu dans son cœur la création avec des animaux, des papillons, avec des moutons, avec... Alors, je vous l'ai dit aussi, il y a de grandes lignées, n'est-ce pas? Parce que, je fais juste une petite parenthèse, les scientifiques disent, à cause du chromosome Y, qui fait partie de ce qu'on appelle la... Il y a un nom qui m'échappe, de mitochondrial, là, mais je ne vais pas entrer dans trop de détails, ça veut dire que le chromosome Y est propre aux hommes et pas aux femmes, oui, voilà. Mais vous avez aussi plein de choses comme ça. Mais à partir de là, il remonte dans l'humanité en disant nous sommes tous de la même race. Et ça, il faut qu'elle me dise, n'est-ce pas? Donc ça fait des années qu'ils l'ont reconnu. On a tous le même sang avec des ARH, etc. Mais nous sommes génétiquement, il y a qu'une société humaine. Ça, ils sont clairs pour le dire. Et ils disent, on descend tous du même groupe humain. Ils vont parfois même jusqu'à dire d'une même Ève et d'un même Adam. Alors, ils voient cela entre 40 000 et 100 000 ans. Et parfois 200 000 ans. Mais nous voilà de nouveau très très loin des millions d'années. Alors, ils disent, il y avait d'autres humanités, mais qui ont disparu. Parce que nous, on vient tous au fond du même entonnoir. Or, maintenant, ils disent la même chose pour les animaux. Ça veut dire qu'il n'y avait pas tellement de diversité comme aujourd'hui. Il y avait de grandes lignées, comme par exemple la lignée Lupus, qui a donné, au fond, les coyotes, les chiens, un peu tous ceux qui se ressemblent, là. Donc, ils sont en train de nous dire, finalement, ils ne vont pas le dire, mais ils pouvaient tous aller dans l'arche, qui est gigantesque, gigantesque. Puisqu'il y avait de grandes lignées un peu à l'image du génome humain. Maintenant, si vous avez encore un petit peu de patience, j'aimerais vous montrer quelques autres éléments, et en particulier, j'aimerais vous montrer, pas ça, ça on l'a déjà vu, voilà, j'aimerais vous parler de M. Velikovsky. J'en ai déjà dit un mot, je crois. Pas encore, vraiment. Non, je ne pense pas. Alors, qui était M. Velikovsky? On va ici, voilà. Alors, M. Velikovsky était un juif vivant en URSS, un savant, mais qui était psychiatre. Alors, ce psychiatre, par ses études de psychiatrie, était convaincu que l'être humain avait la faculté d'oublier des choses graves dans sa vie. Et ça, on le sait, n'est-ce pas? On sait qu'il y a parfois, tout à coup, une personne qui, peut-être à 30, 40 ans, réalise, redécouvre quelque chose qui était enfoui dans sa vie, par exemple d'un abus sexuel. Ça, c'est des témoignages qui sont clairs. Ou de violences subies, de toutes sortes de choses. Or, ce monsieur Velikovsky va démontrer que l'humanité a eu la faculté d'éliminer les grandes catastrophes mondiales, telles que le déluge, etc. Et il a écrit en 1950 un livre qui s'appelle « Monde en collision ». Je vais vous en parler, mais ce qui est intéressant, c'est que lui, il explique les grandes catastrophes par des collisions de comètes et de planètes qui ont eu lieu dans le passé, mais ce qui est phénoménal, c'est que ce passé, ce n'est pas des millions d'années, mais c'est au temps biblique. C'est dans les temps de l'Ancien Testament et en particulier des rois. Et pourtant, il n'est pas chrétien. Et donc, ce qui est impressionnant, c'est que les 70... Alors, ce livre, il est assez récent en français, mais il n'est pas connu. Il y a des choses qui m'échappent. Voilà. Monde en collision. Vous voyez, il y a 70 pages où toute une série de scientifiques disent que c'était un génie complet. C'était un ami personnel d'Einstein. Et quand c'est un des derniers, en dehors de sa très proche famille, à avoir vu Einstein vivant. Quand Einstein est mort, il avait ce livre dont je vous parle sur sa table de travail. Il le lisait pour la troisième fois. Et il a dédicacé, il y a une lettre d'Einstein dans le livre Monde en collision. La même chose, Freud, il était ami de Freud, bien sûr, par la psychiatrie. Et Freud a aussi écrit, c'est un peu dur à lire, hein, mais il a aussi écrit quelque chose sur son ami Velikovsky. Mais plus important encore, c'est que la NASA a fait la liste de tous les hommes et femmes dont les travaux ont révolutionné l'astronomie. Et croyez-moi, vous trouvez ici tous les grands, les Kepler, les Maxwell, Newton, mais tout ce monde-là, tous les grands scientifiques qui ont façonné, au fond, les lois scientifiques, qui ont révolutionné la technique, la science, mais au niveau de l'astronomie, et on trouve M. Immanuel Velikovsky, et c'est la NASA. Ils ont fait une autre liste des hommes et femmes de l'ère moderne dont les travaux ont façonné l'astronomie contemporaine, et ils mettent M. Immanuel Velikovsky. Et s'il vous plaît, vous avez Jeunberg, Hubble, Planck, Rutherford, Röntgen, etc., Fleming, Einstein, bien sûr, Marie Curie, Niels Bohr, enfin, à part deux, trois noms, c'est tous des noms célèbres. La NASA, à un moment donné, ils convoquaient M. Velikovsky. Ils disaient, écoutez, dites-nous quelque chose de l'atmosphère de Mars. Puis dites-nous pourquoi Vénus est la seule... Vous nous dites que c'est la seule planète qui tourne à l'envers. Il a fallu des dizaines d'années pour constater cela. Or, quel a été, en fait, le travail? Et voyez ici, par exemple, encore l'université de Bonn. Les personnes qui ont fait l'astronomie depuis 1815. Alors là, il y a des noms un peu moins connus, mais on retrouve Immanuel Velikovsky. En fait, ce savant, il maniait des tas de langues anciennes, y compris l'acadien, les hiéroglyphes et tout ça, vraiment un grand savant, et il a fouillé le monde entier à la recherche des manuscrits les plus secrets, cachés ou officiellement consultables, mais aussi toute la mythologie. Parce qu'il est parti d'un principe auquel j'adhère sans problème, c'est que la mythologie, elle repose sur des éléments qui ont eu lieu, mais ensuite qui se déforment. Je prends un exemple, l'enlèvement des lits, c'est à la cavalerie, il y a des chevaux, un char, c'est incroyable, on en parle aux 20h, n'est-ce pas, si ça arrivait maintenant. Donc ça veut dire que là, ça se dit, Élie est parti avec un char de feu, des cavaliers. De là à ce que les Grecs reprennent tout cela avec les anges et puis en font un monde fantastique avec des cavaliers, des princesses, des chevaux. La mythologie repose sur quelque chose de vrai. Mais Velikovsky a fouillé dans sa vie le monde entier, chez les Inuits, les Incas, en Indonésie, chez les bouddhistes, partout, pour mettre à jour une quantité industrielle de manuscrits qui décrivent des phénomènes de catastrophes complètement oubliés par l'humanité moderne. Et c'est toujours référencé. Il y a trois livres qui existent. Des fois, c'est fatigant parce qu'on dit, mais oui, j'ai compris. Et puis, il met encore 5 pages de manuscrits pour affirmer ce qu'il... Et il dit, par exemple, que les Incas voyaient les astres plus près que maintenant. Il y a eu des bouleversements cosmiques, parce qu'ils ont pu décrire, il y a des milliers d'années, Les anneaux de Saturne, alors qu'on ne peut pas les voir autrement qu'avec des télescopes. Et toute une série d'événements comme ça. Or, la thèse majeure de Velikovsky, c'est de dire que Vénus était, dans un passé pas si lointain, une comète qui venait semer la terreur chaque fois qu'elle passait près de la Terre et qui a créé des catastrophes gigantesques. Jusqu'au jour où il y a eu une collision avec la planète Mars, et c'est depuis ce moment-là, il montre tous les manuscrits, qu'on a appelé Mars le dieu de la guerre, on l'a célébré comme... Mais c'est depuis ce moment-là aussi, dès que la comète Vénus est devenue la planète Vénus, qui tourne à l'envers des autres planètes, Velikovsky a dit en 1950... que cette planète était tellement jeune qu'elle allait se réchauffer à une vitesse astronomique. Personne n'a cru. Or...
Excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a dans la rotation sur elle-même ou bien autour du Soleil?
Non, c'est la rotation sur elle-même. Oui, non, c'est pas la... Non, non, elle n'est pas... rotation sur elle-même. Mais surtout qu'elle allait se réchauffer d'une manière incroyable. Et maintenant, ils sont en train de découvrir qu'elle se réchauffe d'une manière totalement anormale par rapport aux autres planètes. Et donc, la thèse de Velikovsky, il montre aussi par les manuscrits. Tout ce qu'il montre, c'est par des manuscrits. Ça veut dire que c'est depuis ce moment-là qu'on l'a appelée la déesse Ishtar, la déesse Vénus. Et chose incroyable, je vais... Voilà, ça c'est une image prise dans le livre. Alors, il a écrit deux autres ouvrages, Les grands bouleversements terrestres, où il montre là des choses inimaginables. Il montre que ces grands bouleversements terrestres, dont nous a parlé tout à l'heure Guy Leduc, mais il trouve naturellement sous le pôle sud tous ces ossements dont j'ai parlé, mais il trouve des cavernes dans le nord de la Sibérie ou dans le nord de l'Angleterre avec des animaux broyés ensemble, qui n'ont rien à faire ensemble, mais surtout des animaux tropicaux qui se trouvent dans des grottes. Ils ont fui dans les hauteurs les plus hautes possibles, visiblement fuyant une catastrophe, visiblement fuyant une inondation gigantesque. Et ce qui est impressionnant, c'est que c'est des tonnes et des tonnes d'ossements qui sont broyés, qui ont été pas du tout morts naturels ni chassés par des chasseurs, et surtout mélangé. Or, j'ai ici, par exemple, un article aussi de Velikovsky dans un autre livre. C'est reconnu par la communauté mondiale, le fleuve Yukon en Alaska a charrié des quantités phénoménales, des millions de mètres cubes de matériaux, et dans ces matériaux, il y a toute une série d'animaux qui sont de nouveau broyés ensemble et qui ne proviennent pas d'une mort naturelle. Et tout cela a été charrié sur des distances phénoménales où seule une catastrophe pouvait charrier au fond de telles quantités d'ossements. Or, dans les grands bouleversements terrestres, il montre ces énormes catastrophes dont les anciens ont été témoins et ont écrit des manuscrits. Et puis, cerise sur le gâteau, il a écrit Le désordre des siècles. C'est des gros volumes, si vous ne savez plus que faire une fois vous appuyez ces gros volumes, mais Le désordre des siècles consiste en ceci. Parce que vous savez peut-être ou pas, mais ce n'est pas grave, qu'il y a incompatibilité entre l'Ancien Testament et les chronologies des pharaons. Il y a 600 ans de différence. Ce qui permet à un nombre incalculable d'historiens, et naturellement de nouveau jusque dans nos écoles, de dire, voilà la preuve que ces histoires des rois dans l'Ancien Testament, c'est n'importe quoi, la destruction de Jéricho, la destruction de Sennacherib avec des pierres enflammées, tout ça, il n'y a rien qui correspond, parce que ça ne correspond pas à la chronologie et aux dynasties des pharaons. Or, M. Velikovsky, je ne sais pas si c'était le premier, ils disent qu'il y a eu une erreur dans la chronologie des pharaons de 600 ans. Ils corrigent cette erreur et tout va ensemble, tout. Y compris le passage de la planète Vénus qui correspondait aussi à des phénomènes décrits dans des manuscrits au niveau des hiéroglyphes. Or, dans le désordre des siècles, c'est... Moi, je bénis Dieu pour cet homme. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas plus connu. Voilà un fameux manuscrit Hippouvert, entre autres. Et, bon, il va là revenir sur ces choses, mais il faut que je vous montre autre chose maintenant. Parce que c'est, pour moi, quelque chose de très impressionnant. C'est ici... Je reviens sur ce désordre des siècles, donc ce troisième livre, et nous trouvons ceci, complètement renversant. Il va tout détailler à partir de nouveau de toute une série de manuscrits, en remettant tout dans l'ordre par rapport à l'Ancien Testament, et il va démontrer, je dirais par A plus B, que la fameuse reine de Saba, dont on ne sait pas toujours finalement pas très bien d'où elle vient, les uns la placent en Éthiopie, les autres en Arabie Saoudite, lui, il est clair comme de l'eau de roche, il dit c'était la reine Hatshepsut. C'était la pharaon Hatshepsut qui est allée à Jérusalem pour voir qu'est-ce qui se passait avec Salomon. Alors, certains diront, oui, mais bon, le papier se laisse écrire, mais pas du tout, parce qu'il démontre dans les hiéroglyphes, elle a mis dans des hiéroglyphes les cadeaux qu'elle a reçus de Salomon. Et elle a mis aussi les cadeaux qu'elle a amenés à Salomon. Et on sait que l'ivoire, par exemple, n'était pas connu en Égypte, curieusement, avant les années de Salomon. Et elle arrive là-bas, elle voit son palais d'ivoire, elle voit que tout est en ivoire, et puis lui, il lui fait des cadeaux monumentaux. Et elle a détaillé ce qu'elle lui a envoyé à Salomon et ce qu'il a reçu. Par exemple, des pans, elle a ramené des pans de, parce que Salomon était allé. Faut vous dire une chose, c'est qu'on ne voyageait pas tant à l'époque. Et que personne n'allait en Afrique profonde, alors que Salomon y est allé. On a des preuves qu'il est allé avec ses bateaux, vous savez qu'il a construit pas mal de bateaux, qu'il est allé jusqu'en Afrique du Sud. Et qu'il a ramené là des éléments, de l'ivoire, des animaux. Toutes ces choses sont détaillées par Velikovsky avec détail, les bateaux, les descriptions, tout cela, c'est, je vous dis, il y en a des pages et des pages. Et ce qui est impressionnant, c'est que il montre que il va montrer que la destruction de l'armée de Sennacherib, vous vous souvenez, que l'armée a été détruite, la Bible dit clairement, des pierres de feu qui sont tombées. Et il montre que ça correspond exactement au dernier passage de la comète Vénus. Il montre cela très clairement. Et c'est vrai que c'est des phénomènes, ben la Bible elle dit les choses, il ne peut pas tout analyser. Et puis la Bible, je trouve, elle a... Elle a une sobriété qui m'intéresse beaucoup. Ça veut dire que, vous voyez, il est dit dans le livre des Proverbes, il est dit, la gloire des rois, je vais vous dire ça ici, Proverbe 25, il a dit ceci, c'est Salomon qui écrit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, la gloire des rois, c'est de scruter les choses. Moi, je suis convaincu que Dieu n'a pas voulu que ce soit un livre, si vous voulez, scientifique, qui nous explique que Vénus ceci ou Vénus cela, mais elle nous parle du peuple de Dieu, de ce qui s'est passé, de la réponse à la prière, parce que c'est nous, on sait que c'est Dieu qui agit, alors que Velikovsky, je ne sais pas s'il est croyant, je ne sais pas très bien. J'ai même quelques attestations que non. Quand il dit, par exemple, qu'au Sinaï, les phénomènes, par exemple, qui ont eu lieu avec Moïse, il dit que c'est aussi des phénomènes cosmiques qui ont créé de telles catastrophes, et même la traversée de la mer Rouge. En fait, la Bible dit qu'un vent énorme s'est levé, n'est-ce pas? Mais ce vent, il devait venir de quelque part. Et lui, il dit, mais voilà, c'était le passage de cette comète, et... Il va démontrer aussi, je n'ai pas le temps de tout vous montrer, que le soleil de Josué dont on discute tant. Il n'y a que les croyants évangéliques qui croient encore à ça. Et encore, parce que, comprenez, que des pierres enflammées tombent, on dit, bon, ben, c'est déjà un peu spécial. Mais que la mer s'ouvre, c'est aussi spécial, mais enfin pourquoi pas. Mais que le soleil s'arrête, c'est pas possible. On se déplace à des dizaines de milliers de kilomètres par seconde. Imaginez une auto qui déjà à 50 à l'heure arrive contre un mur, ça peut déjà être mortel, 50 à l'heure. Dire, le corps qui s'arrête brusquement, c'est tout le squelette qui peut être malmené. Alors imaginez 100, 120 à l'heure. Imaginez des milliers de kilomètres à la seconde. Ça veut dire arrêter la Terre ou le Soleil. Là, il a dit que le Soleil se tint immobile presque tout un jour. Et alors, bien sûr, vous avez plein de gens qui disent, ben ça, c'est pas possible. Les scientifiques disent, c'est pas possible. Alors, puisque les scientifiques disent que ce n'est pas possible, donc ce n'est pas possible. Et puis, on élimine le texte en disant, mais c'est une manière de parler. Puis M. Velikovsky, il montre que cela correspond exactement à le phénomène de Mars par rapport à cette fameuse comète. Et surtout, il trouve des manuscrits chez les Incas qui disent très clairement que dans la même période, il y a eu une nuit qui a duré presque toute la nuit. Ce qui est logique, puisqu'il y a eu presque tout un jour d'un côté de la Terre, c'est assez logique qu'il y ait eu la nuit de l'autre côté. Et il vous explique toutes ces choses. Donc, moi, je bénis Dieu. Maintenant, pourquoi de tels livres sont restés dans les tiroirs et peu connus? Des fois, l'impression que, jusqu'en... Parfois, chez certains théologiens évangéliques, ils ont un peu peur de la vérité. Ils ont un peu peur de... Vous voyez, la reine Hatshepsut, elle a vécu là dans les années 1470, 1457, etc. Et non, mais ça, là, il y a un problème. Il y a un problème. Non, mais ça, c'est toute Moses. Non, pensez donc, c'est pas ça. Les choses sont très claires. Je sais pas où je l'ai mise là, mais enfin, elle correspond au temps de Salomon dans la chronologie des pharaons. Voilà. Je vous montre encore peut-être une ou deux choses. Qu'est-ce que j'ai? Alors, je vous l'ai dit, hein, je peux le faire pendant une semaine, mais vous serez vraiment fatigué. Là, donc, on va finir avec ça. Je vous montre encore ceci. Ça, c'est justement magnifique. Alors là, j'avais quelque chose sur le soleil de Josué avec... ce qui est intéressant avec la planète Vénus, c'est que le livre des Actes nous dit que la déesse, vous vous souvenez, dans les Actes, à Éphèse, la déesse des Éphésiens, qui est la Diane. Or, la Diane, c'est la même chose que la déesse Vénus, c'est la même chose que la déesse Ishtar. Or, les Éphésiens, ils adoraient la déesse Diane, donc, qui était Vénus, qui est devenue une planète, qui affichait la paix à la Terre. Or, le texte des Actes est très clair. La déesse est faite avec une pierre tombée du ciel. Vous pouvez lire ça. C'est très clair. Et il y avait donc des morceaux de l'univers entraînés par cette comète qui sont tombés sur la Terre, y compris en son temps les pierres qui ont détruit l'armée de Sennacherib. Mais c'est très intéressant parce qu'on voit là une attestation biblique de l'adoration de cette déesse qui est tantôt Vénus, tantôt Ishtar, et Velikovsky montre tout ça que c'est la même, qui est adorée, et qui est adorée seulement depuis un temps précis. Et il montre aussi que les anciens ne calculaient pas le nombre des astres comme nous aujourd'hui, parce qu'il manquait la planète Vénus. Et il ne la comptait pas, puisque c'était une comète. Et que depuis un certain temps dans l'histoire, ils ont commencé de la manière. Maintenant, je vais terminer ici. Parce qu'on dit des fois, oui, mais on a la preuve que l'ADN, justement, correspond entre l'homme et le singe. Je vous dis, on pourrait prendre tous les éléments les uns après les autres. Voilà. On nous dit toujours ça, on croit ça presque dans le monde entier. Or, qu'en est-il de la comparaison de l'ADN homme-chimpanzé? On nous a lavé les oreilles depuis des dizaines d'années, enfin 20 ou 30 ans, en disant que nous avons le génome commun à 95-96% avec les grands singes. Or, ce qu'il faut savoir, vous avez aussi entendu peut-être parler de l'ADS poubelle. Ça veut dire que sur ces milliards de lettres, on ne connaissait qu'une petite partie qu'on appelait l'ADN codon. Ça veut dire qu'on disait que c'est que des petits brins d'ADN qui font qu'on a des yeux, des cheveux, des mains, des pieds. Puis tout le reste, il disait ça ne sert à rien. On ne sait pas à quoi ça sert. Mais c'était la majorité de ces milliards de lettres. Or, ils ont comparé les grands singes et les êtres humains sur l'ADN connu. Mais depuis lors, ils ont sorti l'ADN de la poubelle et ils disent que tout est codon. Or, quand on prend le tout codon, les choses sont en train de changer. Vous voyez, ça, c'est les schémas classiques qu'on enseigne partout. Voilà ces fameuses nucléotides. On ne va pas entrer dans des choses trop compliquées vers la fin de l'ADN poubelle. Hein. Donc ça, c'est l'histoire moderne de la biochimie. Les chercheurs mettent à jour des fonctions inconnues de l'ADN non codant. Vous voyez, je viens de vous le dire. Les généticiens sortent l'ADN de la poubelle, hein, alors on en a dans les revues scientifiques. Voilà. Et puis là, ils commencent à comparer chromosomes des séquences d'ADN et l'homme du chimpanzé, et ils arrivent à des surprises majeures. Ces ressemblances sont établies uniquement sur des zones de l'ADN qui ressemblent à l'ADN codant, c'est-à-dire 3%. Ils ont fait des comparaisons sur le 3% de notre ADN. La récente découverte de gènes régulateurs situés dans l'ADN non codant, donc ADN poubelle, montre que la totalité est importante. Sur la totalité, la ressemblance totale est beaucoup plus faible. Elle ne serait plus que de 70% avec le chimpanzé, et plus de 96 ou 98%. Or, notre ADN ressemble à 60% à celui d'une banane, et à 75% à celui d'un ver de terre. Alors, mesdames et messieurs, choisissez de qui vous voulez descendre. Voyez. Mais ça, vous ne le verrez jamais dans les ouvrages destiné au grand public. Vous n'allez jamais entendre ça à la télévision, mais ça ne sera jamais enseigné aux enfants, jamais. Parce que il faut se dire quand même que la théorie de l'évolution est une théorie antichristique. C'est une théorie pour démolir la foi chrétienne, pour démolir la parole de Dieu. Donc, comme ce sont des origines antichristiques, il n'y a pas de raison qu'ils reviennent en arrière, vous comprenez, puisque l'antichrist se lève dans notre monde. Et se lève dans les écoles, et se lève au gouvernement européen, se lève partout. Donc, on doit comprendre aussi notre étonnement, parce que, je vous l'ai dit la fois passée, par exemple, Rémi Chauvin et d'autres, Pierre-Paul Grasset, disent « Il n'y a aucune science qui tient des raisonnements comme dans l'évolutionnisme, où on part d'hypothèses et on en fait des sciences. » Et on en fait des lois. Ils disent que ça n'existe dans aucun autre domaine scientifique. Aucun. Et donc, on comprend, nous, pourquoi. On comprend pourquoi. Parce que notre monde ne veut pas de Dieu. Notre monde ne veut pas du Seigneur Jésus. Ne veut pas de la croix. Quand je dis notre monde, heureusement, vous êtes là. Heureusement, beaucoup sont là. Je vous l'ai dit, je vais vous en parler dimanche matin, un peu de ce que je viens de vivre en Chine. Ce ne sera pas une conférence sur la Chine, bien sûr, mais c'est vrai que ce sont des dizaines de milliers et dizaines de milliers de nouveaux convertis chaque jour dans le monde, des dizaines de milliers. Seulement en Mandchourie, où j'étais, dans cette partie est de la Chine, 130 à 150 nouvelles églises de maison. Imaginez, seulement cette année. Qui sont toutes composées de 15 à 20 à 25 personnes, parce qu'ils doivent se cacher dans leurs appartements. Donc, on comprend aussi que l'Antichrist se lève. La question, vous voyez, je reviens à M. John Sanford, qui parle justement de cette dégénérescence et que l'information génétique s'appauvrit. Alors, allons-nous devenir débiles? Le Seigneur reviendra bien avant. Mais, voilà, on va s'arrêter là. Voilà. Oui, ils disent que finalement, on ne peut pas remonter à des milliers d'années dans les courbes, si vous voulez, pour que le génome soit quasi, enfin, était parfait au départ. Voilà. Enfant de singe ou fils de Dieu. Voilà. Avez-vous des questions, chers amis?
Moi, j'ai pas une question.
Oui.
J'aimerais vous poser une question. Si vous croyez en l'Atlantide, si vous avez entendu parler de ça.
Attendez, je n'ai pas très bien compris.
L'Atlantide.
Alors, effectivement, il y a certaines attestations, mais de nouveau là, on n'est pas dans les millions d'années. Simplement, ce bouleversement des continents après le déluge a probablement fait disparaître aussi, mais de toute façon, l'humanité a disparu au temps du déluge, n'est-ce pas ? La Bible est claire, l'humanité a disparu. Alors, quelle humanité ? Maintenant, ce qu'on dit parfois de l'Atlantide, même qu'ils avaient des hélicoptères, qu'ils avaient des fusées, tout ça, bon, je ne crois pas trop cela. Ça, je trouve, c'est plus des fantasmes qu'autre chose. Maintenant qu'il y ait des plaques tectoniques qui se soient complètement effondrées avec la civilisation qui était dessus, ça, je dirais, ça paraît presque incontestable au vu de ce que je vous ai dit. Voilà. Et là, alors, dans toutes ces analyses historiques, il y a toujours des spéculations. C'est comme sur les pyramides d'Égypte, n'est-ce pas ? On veut à tout prix percer des secrets, des mystères, parce que notre humanité a besoin de mystères. Notre humanité a besoin de fantasmer sur plein de choses au lieu de s'en tenir à ce qui est biblique et ce qui vient de scientifique. Donc, je ne peux pas dire plus, mais j'ai déjà lu des choses qui, sous la plume de chrétiens qui disent mais que des... C'est pas que des humains qui ont disparu lors du déluge. Ça peut être tout à coup un plateau qui ne se retrouve tout simplement plus. Autre question ?
C'est une question par rapport à Darwin. Là. C'est quoi l'argument de Darwin par rapport aux femmes et hommes ? C'est vrai, ils disent qu'ils ont bien des singes, machin, tout ça. Et c'est quoi son argument par rapport à la femme et un homme, la différence ? Parce qu'on est de même origine aussi, c'est l'homme d'Arnie. C'est quoi leur argument ?
Je dois être appareillé. Je l'ai aidé une fois. Puis c'était un tel. C'était insupportable. J'ai eu un temps, l'appareil qui allait très bien, mais il était toujours en panne. Le nouveau, à un moment donné, il est insupportable. Mais voilà, merci de parler un petit peu plus fort. Surtout que j'ai l'appareil ici.
Ok. Donc, par rapport à Darwin.
Oui, par rapport à Darwin.
Oui, à Darwin. Oui. C'est quoi son argument concernant un homme et une femme ? Lui dit l'évolution vient d'une bactérie, après on était singe.
Ah oui, je comprends. Après, la différenciation sexuelle. Oui, c'est ça. Alors là, dans la théorie de l'évolution, effectivement, il parle des bactéries qui n'étaient pas sexuées. Et puis, comme par hasard, la sexualité apparaît un beau jour dans les microbes, les bactéries et tout. Et puis, la sélection sexuelle deviendra un des arguments aussi de Darwin. Ça veut dire que dans la sélection naturelle, il y a forcément la sélection sexuelle. Ça veut dire que les animaux, on le voit bien, n'est-ce pas ? Ils font leur danse, ils font les malins, parce qu'ils espèrent impressionner ces femelles, n'est-ce pas ? Qui vont choisir ce mâle-là plutôt qu'un autre. Et ça, c'est la sélection sexuelle, entre autres. Donc, qui fait partie de la sélection naturelle. Maintenant, vous savez, je n'ai pas abordé du tout des grands pans de l'évolutionnisme, qui est en fait le racisme de Darwin était quelque chose d'effrayant. Dans les carnets de Darwin, les carnets qu'on trouve aujourd'hui de sa main, il a dit des choses sur les Africains effrayantes, que c'était vraiment une sous-race en train d'évoluer Mais il a écrit des choses pour dire qu'il y a des animaux beaucoup plus beaux qu'eux, ce qui est d'ailleurs monstrueux, parce que les Africains sont beaucoup plus beaux que nous. Hein. Ils ont une peau très belle. Nous, en colère, on est tout rouge. Quand on est malade, on est tout jaune. On est jaune quand on est malade. On est bleu quand on est mort. J'entends. Vous voyez, j'ai été assez en Afrique pour savoir que les Africains ont souvent une peau très très belle. Voilà. Mais Darwin a écrit des choses dramatiques. Et c'était l'époque victorienne. Et on a justifié. Comprenez, Karl Marx a dédicacé son livre Le Capital à Darwin. Karl Marx, dont on a parlé, il a dit il manquait à ma philosophie, il manquait une assise scientifique. Or, merci Monsieur Darwin, vous me l'avez donné. J'ai maintenant les appuis scientifiques pour ma philosophie matérialiste. Et l'époque victorienne a pu justifier l'esclavage. Parce que du moment que ces Africains sont en train d'évoluer entre les animaux et les êtres humains, n'est-ce pas, il n'y a pas de raison de ne pas en faire des esclaves. Et des choses dramatiques ont été écrites. Hitler, il écrit Mein Kampf, mon combat. Mais c'est en droite ligne de Darwin. Ça veut dire que la race aryenne est supérieure aux autres races. Et à cause de la foi chrétienne, où on garde tout le monde, n'est-ce pas? Mais on écrit encore des choses comme ça aujourd'hui, qu'on appelle l'eugénisme. C'est-à-dire que cette espèce de compassion, parce que la nature, disent-elles, elle élimine tous ceux qui ne vont pas bien. Si un animal naît estropié, il ne va pas vivre. Personne ne va prendre soin de lui. Et ils disent, il n'y a que les chrétiens qui ont inventé cette histoire de prendre soin des pauvres et puis des paralytiques. Mais il y a eu des choses dramatiques qui ont été écrites et il n'y a pas si longtemps. Ça veut dire que Hitler, il dit, voilà, la race aryenne, c'est les juifs. Il a aussi pensé les chrétiens qui empêchent la race aryenne de continuer d'évoluer pour devenir une super race. Et c'est pourquoi il a voulu, il a commencé à sélectionner, n'est-ce pas, des Aryens reproducteurs, des femmes reproductrices, et d'éliminer ceux qui empêchaient la race aryenne d'évoluer. Et c'était les Juifs qui étaient responsables. Mais ensuite, évidemment, tout le marxisme-léninisme, et avec Lénine, c'est inimaginable. Mais Pol Pot, tous ces gens-là, qui ont éliminé des millions et millions de personnes, c'était toujours au nom d'une sélection. Et donc, ça, je dirais, le darwinisme a créé des choses inimaginables, dont les évolutionnistes ne veulent pas reconnaître, alors que c'est noir sur blanc. Les carnets de Darwin sont extrêmement clairs. D'autre part, Là où sont nées ces thèses, entre guillemets, soi-disant scientifiques, on voit très clairement, on peut faire l'analyse globale, les choses sont incontestables, ça vient toujours de cercles qui s'opposent à la foi chrétienne. C'est des cercles de libres penseurs, c'est des cercles, et maintenant, moi je vois très bien ceux contre lesquels je lutte dans le cadre de mon doctorat, les grands tenants de Sciences et Vie, du Muséum National, de Arte, etc., sont des matérialistes, mais vraiment décidés à en finir avec toute notion de foi. Et ce sont des gens relativement dangereux. Mais ça veut dire que dans toutes sortes d'ouvrages ou d'articles, ils disent clairement qu'ils remercient son papa, qui était un libre penseur, athée, et qu'il a été formé dans cette pensée, qu'il remercie son papa. Vous voyez, ce sont des grands scientifiques dont les noms vous échappent en partie, mais ce sont eux qui sont derrière la résolution 1580, par exemple. C'est eux qui ont mandaté, en fait, un politicien. Enfin, c'est toute une histoire. Voilà. Alors, les amis, on va s'arrêter là. Oui.
Je n'ai pas une dernière question, mais parce qu'au CERN, on a parlé d'antimatière. foncière, on entend parler d'antimatière. Moi, je connais rien du tout. Hein,
la matière noire aussi.
Voilà, la matière noire, la particule divine, c'est quoi?
Ben oui, c'est ce fameux boson de Higgs.
Voilà,
ouais. Oui. Ça veut dire qu'à un moment donné, effectivement, il y a un scientifique aux États-Unis qui, en découvrant une particule fondamentale, a dit c'est comme si on venait de découvrir la création de Dieu. Et il l'a appelé la particule de Dieu, en fait. Maintenant, voilà, vous voyez, on nous bassine aussi beaucoup avec le Big Bang, mais nous avons une conférence l'année passée d'un célèbre cosmologiste qui vient d'Australie et qui montre les choses tout autrement. Vous savez, on dit qu'on a pu même photographier le bruit au fond du Big Bang, de cette explosion, aux confins de l'univers, et on voit des dessins avec des couleurs. Ils ont mis tout ça en couleurs, c'est très beau, voilà. Mais il y a bien un rayonnement cosmique, il y a bien un bruit de fond, on pourrait dire, mais il y a des anomalies, c'est pas uniforme. Et ce monsieur Hartnett montre très clairement que ces anomalies, elles indiquent une direction. Et cette direction, c'est la Terre. Et ça veut dire que je pourrais là aussi vous entretenir longtemps de ce qu'on appelle les thèses anthropiques. Ça veut dire qu'un Michael Denton, dont je vous ai parlé la fois passée, a écrit un énorme livre pour démontrer, du point de vue scientifique, que tous les paramètres qu'on connaît, que ce soit l'air, l'eau, le zinc, le magnésium, toutes ces choses dont on vit, tout est calculé avec une précision incroyable pour qu'on puisse vivre sur la Terre. Et que c'est impossible de vivre ailleurs. Et que la planète Terre est absolument unique dans tout l'univers, quoi qu'on dise. On nous dit tout le temps qu'on trouve des exoplanètes où la vie serait possible, mais ça ne tient pas la route. Et il faut savoir qu'il y a dans l'univers ce qu'on appelle les constantes cosmologiques. C'est-à-dire que c'est des constantes qui font que on tient sur la Terre entre 50 et 100 kilos, comme vous voulez, mais déjà sur la Lune, c'est déjà autre chose. Et ça veut dire que tout est calculé dans l'univers. Or, il y a des constantes cosmologiques qui font réfléchir beaucoup de scientifiques, tels que par exemple les frères Bogdanov, n'est-ce pas ? Où vous avez, si vous changez un chiffre à la 130e place après la virgule, vous imaginez ? La précision, voyez, quand on est déjà à 3-4 chiffres après la virgule, c'est déjà très petit. Hein. Si vous avez, par exemple, le fameux nombre pi qui vous a peut-être fait souffrir dans vos mathématiques, mais 3,1416, vous savez que ça va jusqu'à l'infini, n'est-ce pas ? Et que ceux qui doivent faire des calculs d'une phénoménale précision sont obligés de prendre une centaine de chiffres après la virgule s'ils veulent arriver sur un caillou qui se trouve à 10 ans de fusée de la Terre. Pour arriver sur un caillou qui fait 140 mètres de long, il faut prendre le nombre pi au sérieux, avec beaucoup de chiffres après la virgule. Eh bien, il y a des constantes cosmologiques qui ont 120 à 130 chiffres après la virgule. Ils en ont beaucoup plus. Mais si on change un chiffre, si on met un 4 au lieu du 3, l'univers s'effondre. Et si on met un 2 au lieu du 3, l'univers explose. Voyez ? Et là, il y a une trentaine de constantes cosmologiques. Et des scientifiques disent, on ne sait pas qui a créé ces chiffres. Et chose la plus importante, et vraiment je m'arrête là, Newton a eu ces fameuses équations qui ont été amplifiées par Einstein avec la fameuse théorie égale mc carré, mais la théorie de Newton tient toujours, sauf qu'elle ne tient pas pour les particules atomiques. Ce sont des vitesses et des poids tellement différents qu'il a fallu les équations d'Einstein. Mais Newton vous a fait souffrir aussi parce que n'est-ce pas, quand il fallait calculer, voilà, vous aviez un canon sur la, au bord de la terre qui visait un bateau, le bateau allait à 30 km/h, il y avait un vent qui allait contraire dans, dans l'autre sens, il y avait un courant marin, puis il fallait calculer à quel moment il fallait tirer, et puis surtout avec quel angle, pour que le boulet suive les lois de Newton et arrive à la bonne place. N'est-ce pas? Donc vous lancez un ballon, c'est les lois de Newton. Bon, eh bien, Newton a découvert la gravitation, c'est-à-dire les équations qui font que dans l'ensemble, les planètes tournent toujours correctement. Je dis bien dans l'ensemble parce que la Lune s'éloigne de la Terre chaque année de quelques millimètres, peut-être même centimètres. La Lune s'éloigne. Ce qui amène aussi des scientifiques à dire, il n'y a pas si longtemps qu'elle a été créée, parce qu'elle aurait été beaucoup trop près de la Terre, elle serait tombée sur la Terre à cause de la gravitation. Maintenant, la gravitation qui fait qu'on peut calculer avec une précision phénoménale les, la masse des planètes, d'où les satellites qu'on envoie, avec une précision exceptionnelle, selon les lois de gravitation, et je vous le dis, c'est d'une précision incroyable. Ils sont capables de déterminer, puisque tous les corps s'attirent, voyez, toutes les planètes exercent une attraction sur les autres corps célestes. C'est pour ça que ça tourne rond. Ça tourne en fait ovale, hein, mais ça veut dire qu'ils ont calculé dans l'univers de notre galaxie, quand ils envoient des satellites, vous savez comment ça se passe, hein, ils le font sortir de l'attraction terrestre. Il tourne un moment autour de la Terre, et puis après, il envoie une impulsion pour partir plus loin. Mais pour partir plus loin, ils vont par exemple lui faire prendre la vitesse autour de Mars. Parce que dès qu'un satellite tourne autour d'une planète, il prend de la vitesse. Puis quand il a pris assez de vitesse, ils le font sortir pour aller plus loin. Et ils ont découvert, à cause de l'attraction, qu'il y a des zones de stationnement. C'est-à-dire qu'il y a des zones où il ne se passe plus rien. Alors ils peuvent laisser un satellite un moment dans cette zone en attendant que ça soit les bons calculs pour l'envoyer plus loin. Voyez. Or, personne ne sait ce qu'est la gravitation. Personne. On sait qu'elle existe, mais personne ne sait ce que c'est. Et ça, je vous dis des choses sérieuses. Hein. Personne ne sait ce qu'est la gravitation. Personne. Elle existe, on peut la calculer, mais on ne sait pas d'où vient cette force. On n'a pas d'explication. Et quand la Bible nous dit que, c'est, je crois, sauf erreur dans l'Épître aux Éphésiens, quand il a dit que le Seigneur, ou Colossiens, tient toute chose, il tient toute chose. Je suis totalement persuadé, et je ne suis pas le seul, que Dieu tient l'univers qu'il a créé. Le jour où il ne tient plus, eh bien, c'est fini. Et ça sera les nouveaux sur la nouvelle terre, comme il le voudra. Mais le Seigneur, pour moi, est le Seigneur entre autres de la gravitation. Et il a permis que des scientifiques découvrent ces lois exceptionnelles, comme Kepler, je vous en ai dit un mot, mais il a peut-être aussi encore caché des choses. Il permettra peut-être que quelqu'un les découvre un jour, mais il y a aussi des choses qui sont cachées, qui appartiennent à l'éternel, telle que la gravitation. Je prie avec vous. Seigneur, merci pour ces frères et sœurs qui ont pris du temps pour se renseigner, pour découvrir un peu plus de tes merveilles de la création et aussi être mieux armés contre le matérialisme aujourd'hui, philosophique, athée. Bénis ces frères et sœurs de ta bénédiction. Qu'ils puissent retourner chez eux même s'ils n'ont pas tout compris, mais tout rempli de toi, de ton amour, de ta création, de tes merveilles. Seigneur, sois béni pour les scientifiques de si haut niveau qui nous disent ta parole, qui nous disent que ta parole est vraie. Et cette parole, Seigneur, c'est la vie, c'est la croix, c'est ton sang qui a coulé, c'est la vie que tu nous donnes, la nouvelle naissance, recréation spirituelle. Seigneur, nous sommes émerveillés, même si nous ne comprenons pas tout, nous te rendons grâce. Nous te disons Merci Père Céleste d'avoir créé. Merci Seigneur, tu es la parole par qui tout a été créé. Merci Saint-Esprit qui vibrait au-dessus du chaos, du commencement, pour tout mettre en place. Seigneur, merci beaucoup et bénis beaucoup ses frères et sœurs, les familles qu'ils représentent. Donne-leur une bonne nuit de repos et une belle et bonne journée avec toi demain. Amen.
Amen. Amen.